Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta annonce pour le mois de février 2023 la reprise des pourparlers de Nairobi 4 entre le gouvernement et les groupes armés. Les facilitateurs de l'EAC pour le processus de paix en RDC a rencontré les responsables de la rébellion du M23 hier jeudi à Mombasa au Kenya. L'Association congolaise pour l'accès à la justice condamne les propos qualifiés d'incendiaires et de divisionnistes dont se sont rendus coupables récemment certains membres du gouvernement. La CAJ demande au Premier ministre de rappeler à l'ordre tous les membres du gouvernement quant au respect des règles d'éthique et de déontologie. L'invité de ce journal est le deuxième vice-président de la CENI. Didi Manara, en séjour à Bukavu, confirme que l'enrôlement des futurs électeurs dans la province du Sud Kivu démarre le 16 février prochain pour un mois. Mesdames, Messieurs, bonjour. Processus de Nairobi, le facilitateur de l'EAC pour le processus de paix en RDC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a rencontré les responsables de la rébellion du M23 hier jeudi à Mombasa au Kenya. L'ancien président kenyan a également annoncé une nouvelle session de pourparlers intercongolais à Nairobi au Kenya pour le mois de février prochain sous l'égide de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Les dirigeants du M23 ont réaffirmé la volonté de poursuivre un retrait ordonné et de respecter les cessez-le-feu strict. Sifa Maguru pour plus de détails.
D'après le communiqué final rendu public hier soir, après la rencontre entre Uhuru Kenyatta et les responsables du M23, l'ancien chef d'État kenyan a souligné que le quatrième round des discussions vise à consolider les acquis considérables des derniers mois et contribuera à apporter une plus grande paix et stabilité dans l'est de la RDC. Ils ont pris note et exprimé leur gratitude que les consultations intra-congolaises de Nairobi 4 se tiendront dans les villes clés de l'est de la RDC et rapprocheront le processus de Nairobi des différentes communautés affectées, a-t-on indiqué dans le communiqué. Le M23 a exprimé sa gratitude au facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta, pour son engagement à continuer à rechercher l'aide et la coopération internationale pour aider à reconstruire les communautés dans l'est de la RDC afin d'alléger leur longue souffrance. Les dirigeants du M23 ont lancé un appel pour qu'il soit mis fin au discours de haine. Ainsi, l'ancien président du Kenya a accepté de s'impliquer personnellement pour freiner l'utilisation d'un langage incendiaire qui pourrait compromettre le processus de paix, ajoute ce communiqué. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
À Ituri, 10 personnes, dont un militaire des FARDC, ont été tuées hier jeudi par les miliciens de la CODECO lors des attaques dans plusieurs villages situés à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Bunia dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, les FARDC sont intervenus pour stopper l'avancée de ces groupes armés. Des combats se sont déroulés presque toute la journée entre les deux partis Agissada et Kitabo, ce qui a entraîné le déplacement massif de la population, dont certains déplacés du site de Malabo. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
C'est après les incidents de Drodro, Largou et Bloukouan en début de cette semaine qu'un autre groupe des miliciens de la CODECO a surpris jeudi certains agriculteurs dans leurs champs, dans les villages Kelo et Lissa, dans le groupement Malabo en territoire de Djougou. Ces derniers ont pu s'échapper sans qu'il y ait des victimes. Ces hommes armés ont ensuite progressé vers le site des déplacés des Lopa en tirant des coups de feu. Selon des sources concordantes, des attaques simultanées menées par les mêmes groupes armés ont été également signalées dans d'autres entités dont Lewe, Uche et Jiwi. Les militaires des FARDC basés à Gissada ont riposté pour stopper la progression de ces assaillants. Les affrontements ont duré presque toute la journée de jeudi entre les deux parties. 9 civils, dont 2 femmes et 7 hommes, sont morts, affirme la société civile locale. Un soldat des FARDC a également été tué lors des combats, ajoute Dino Gédéon, président d'une des organisations de la société civile. L'armée a réussi à déloger ces miliciens des 9 localités qui étaient sous leur contrôle et un calme apparent s'observe depuis vendredi matin dans la zone. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et toujours en Ituri, 7 civils ont été abattus mercredi et jeudi par des présumés éléments ADF dans les villages de Manzebi, Miliota et Ouessa, dans la chefferie de Walese, Vonkutu, au sud du territoire d'Iromou. Selon l'Organisation de défense des droits humains, CRDH, les victimes se trouvaient dans leur champ lorsque des rebelles les ont attaquées. Le coordinateur de cette structure, Christophe Mouniaderou, indique que les corps de ces personnes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de Ouicha, dans les territoires voisins de Beni, au nord Kivu. Il demande aux habitants d'aiguiser la vigilance et appelle l'armée à démanteler ces miliciens qui déstabilisent cette région. Il a été joint par Martial Kizabiamungu.
Nous appelons tout simplement notre population civile à la vigilance, mais aussi à notre armée de voir comment multiplier les efforts pour sécuriser cette population, mais aussi la demande que nous, État comme population, nous avons toujours demandé à nos autorités militaires de voir comment installer d'autres positions militaires, une distance au moins vers les profondeurs de la forêt. Donc il faudrait qu'il y ait des positions militaires qui seront installées au-delà de la RN4. Oui, la population est en train de voir l'effectif des militaires, mais ils sont en jalonnement sur la RN4, mais aussi il faudrait songer à cette population qui effectue des activités champêtres. Donc les autorités doivent nous aider pour voir comment répondre à cette requête, de voir comment installer certaines positions militaires au-delà de la RN4, juste pour permettre à cette population qui est en train d'effectuer ses activités champêtres d'être protégée.
À cause de la précarité dans laquelle elles vivent, certaines filles mineures et femmes déplacées sont obligées à se livrer à la prostitution pour survivre. Cela se passe à Mangina, dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Inquiète de cette situation, les organisations des droits de l'homme de la place ainsi que les autorités locales plaident pour des mesures préventives, mais surtout le rétablissement de la paix dans leur milieu d'origine. Des détails avec Marc Marofimbo.
Certaines de ces femmes et filles déplacées proviennent des localités des territoires de Mambasa et d'Irumu dans la province de l'Ituri. D'autres du territoire de Beni sous menace sécuritaire. Toutes ont trouvé refuge dans la commune de Mangina. Selon le bourgmestre de cette commune, beaucoup de ces femmes et filles se livrent à la prostitution et au mariage précoce. Cette situation inquiète les organisations des droits de l'homme qui estiment qu'il est important que les autorités prennent des mesures pour mettre fin à cette situation. Parmi ces mesures, il y a par exemple la fermeture des maisons de tolérance qui hébergent ces victimes de l'insécurité, mais aussi la prise en charge de ces femmes. Moïse Katembo Sivandiri est le chef d'antenne de la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH à Mangina.
C'est tellement inquiétant parce que beaucoup de filles se livrent à la prostitution, même des femmes à la recherche de trouver les vivres surtout. Alors l'essentiel, c'est de démanteler les maisons de tolérance parce que ce sont des choses qui peuvent nous amener surtout à la délinquance juvénile, mais aussi le banditisme s'augmente dans les milieux.
Rocky Kakule Mufunga, bourgmestre de la commune de Mangina, plaide pour la poursuite des opérations dans les zones d'origine de ces déplacés afin de leur permettre de retourner chez elles, ce qui est aussi le désir de ces personnes vulnérables qui se disent fatiguées de cette vie d'assistance en dents de scie. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis le général Mouchid Diav, commissaire général en charge de la police administrative, invite les gouvernements centraux à prendre en charge les déplacés qui regagnent leur village après l'insécurité à Kwamout. Cet appel a été lancé à l'occasion de la clôture mercredi dernier de sa mission effectuée dans les Grands Bandundu pour sensibiliser les populations en conflit et pour le suivi et contrôle des escadrons de la police récemment installés pour la pacification. Irène Moma pour plus d'explications.
Après les territoires de Kwamout dans la province de Maïndombe et de Bagata dans les Kwilu, c'est dans la province du Kwango que le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le général Philemon Patience Mouchidiav, a clôturé sa mission officielle dans cet espace du Grand Bandundu. Cette mission qui consistait à sensibiliser les populations et à faire le suivi des opérations de la police en cours dans cette partie du pays pour la sécurisation et la protection des populations. Cela dans le cadre du conflit intercommunautaire terre de Kwamout qui a occasionné plusieurs morts, des incendies de maisons et les déplacements massifs des populations. Tout en exprimant ses sentiments devant la presse à la fin de la dite mission, c'est au cadre de la police appelle le gouvernement congolais à assurer la survie des déplacés qui retournent déjà dans certains villages qu'ils avaient fui à la suite de ces violences.
À l'époque, les villages étaient déserts, mais aujourd'hui, la population est là. Alors, mes impressions sont bonnes, mais il nous reste beaucoup à faire. Maintenant, le gouvernement doit prendre en charge ces populations qui commencent à rentrer dans les villages. Parce que, on voit quelqu'un qui a abandonné son village il y a 6 mois ou il y a toute une année, il a besoin d'une aide maintenant.
Le commissaire divisionnaire Mouchid Diaf appelle tous les peuples du Grand Bandundu à la cohabitation pacifique. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
L'association congolaise pour l'accès à la justice condamne les propos qualifiés d'incendiaires et des divisionnistes dont se sont rendus coupables récemment certains membres du gouvernement. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 13 janvier, la CAJ cite les ministres Didier Boudimbou et Jean-Lucien Boussa. La CAJ demande au Premier ministre de rappeler à l'ordre tous les membres du gouvernement quant au respect des règles et d'éthique et de déontologie devant caractériser tout ministre dans l'exercice des charges publiques. On écoute le président de la CAJ au micro des Radio Capi.
La CAJ a noté avec préoccupation que leur dernier séjour de deux membres du gouvernement central, à savoir du ministre des Hydrocarbures, M. Didier Boudimbou, de M. Jean-Lucien Boussa, respectivement dans la province du Haut-Katanga, Lubumbashi, et dans la province de la Mongala. Le premier a eu à tenir un meeting devant ses militants, qui à cette occasion, il a dit que les Congolais ne doivent pas voter un candidat étranger, c'est-à-dire qui n'est pas né d'un père ou de mère congolais. Et le dernier, lorsqu'il était aussi dans la province de la Mongala, a tenu des propos du genre en considérant que celui qui est né d'un père étranger doit être considéré comme l'ennemi des Congolais. Nous sommes profondément préoccupés par ces propos incendiaires et divisionnistes qui sont pour le moins aussi racistes tenus par des membres du gouvernement central et encore plus à l'occasion de leur mission officielle. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de discours parce que ils visent à créer des discriminations entre les Congolais, à fragiliser les sentiments du vivre ensemble et avec le risque que ça puisse déboucher sur des violences extrêmement graves et aussi sanglantes.
Dans le même chapitre, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Lubumbashi invite les acteurs politiques et autres leaders à bannir les discours de haine et les messages d'incitation à la haine. C'était au cours de l'atelier de renforcement des capacités qu'il a organisé au profit des agents et cadres de la Commission nationale des droits de l'homme et ceux de la Division provinciale des droits de l'homme dans le Haut-Katanga. Pendant deux jours, soit de mercredi à hier jeudi, les participants venus tant de Lubumbashi que des six territoires de la province ont appris plusieurs notions tendant à la promotion des droits de l'homme. On écoute à ce sujet Oumar Samake, coordonnateur du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme à Lubumbashi, au micro de Jean Gandou.
Chaque fois qu'on s'approche des échanges, il y a des surenchères. Nous avons accepté ça et là quelques discours qui, de notre point de vue, si on n'attaque pas le mal racine, ça peut dégénérer. La raison pour laquelle nous avons souhaité que ces différents acteurs qui ont en charge la question de la promotion des droits de l'homme puissent être outillés dans un premier temps à connaître c'est quoi même le message de la haine, le discours incitatif à la haine et à la violence. Quand ils comprennent le contenu de cette problématique, en ce moment, il sera beaucoup plus facile pour ces acteurs qui vivent dans la communauté, qui sont aux prises avec ces leaders politiques, peuvent l'expliquer et surtout les conséquences de cela. Parce que les droits de l'homme peuvent dégénérer si les différents acteurs ont un discours qui peut effectivement inciter les uns et les autres à s'attaquer pour telle ou telle raison. Raison pour laquelle on dit qu'il faut commencer par ces leaders, ces DDH, qui sont les premiers outillés à comprendre de quoi il s'agit et ensuite peuvent faire passer le message en termes de recherche de solutions pour amener les uns et les autres à utiliser un discours beaucoup plus conciliant, un discours beaucoup plus tolérant pour que la paix puisse revenir. Parce que sans la paix, les droits de l'homme ne peuvent pas être promus.
Sous un autre chapitre dans l'ex-province orientale, les jeunes doivent sensibiliser la population pour qu'elle s'enrôle massivement afin de se choisir le moment venu en toute responsabilité des représentants capables de défendre les intérêts communs. Ceci ressort d'une grande rencontre qui a réuni hier jeudi les représentants des jeunes de l'espace Grand Oriental à Kisangani. Pour ces jeunes, l'insécurité persistante, les tueries, les pillages et autres exactions, ainsi que le délabrement des infrastructures doivent interpeller la population pour un vote utile. On écoute Rémi Effendja, leur rapporteur au micro de Jacques Moukonkolé.
Nous constatons avec regret la dégradation constante des provinces de cet espace en particulier. Dans les Ouélé, l'inscription des éleveurs Mbororo armés avec leur bétail ravageur des champs. En Ituri, la persistance de l'insécurité généralisée avec la prolifération des groupes armés à la Tchopo. La chute spectaculaire du niveau de vie des populations soumises au délabrement des infrastructures, à l'absence de l'électricité malgré la présence d'un barrage hydroélectrique publique à pleine ville de Kisangani. Le gouvernement laisse délibérément la ville dans l'hostilité, motivé par les résolutions du Forum des rêves historiques de l'espace Grand Oriental. Décidons ce qui suit. L'espace Grand Oriental ne servira plus jamais de marchepied à des politiciens inconscients. Notre poids politique et électoral servira désormais en appuyant les filles et fils ambitieux et ayant les moyens intellectuels requis pour postuler à des postes accessibles par voie électorale.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, la récente révision des listes électorales par la Commission électorale indépendante suscite un faible engouement, selon l'ONG Indigo. On note un des intérêts des citoyens ivoiriens de la chose politique, assure un de ses membres, Arsène Conan. Le président américain était sous la défensive hier jeudi après la découverte de nouveaux documents confidentiels dans sa maison de famille, une affaire sur laquelle va enquêter un procureur spécial, Robert Ure, nommé par le ministre américain de la Justice. L'enjeu pour Joe Biden, qui envisage de se représenter en 2024, est bien sûr de saper tout parallèle entre son affaire et celle de son prédécesseur, soupçonné d'avoir dissimulé volontairement une partie de ses archives.
L'invité.
L'invité de ce journal est le deuxième vice-président de la CENI. Didi Manara, en séjour à Bukavu, confirme que l'enrôlement des futurs électeurs dans la province du Sud Kivu démarre le 16 février prochain pour un mois. Didi Manara s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Monsieur Manara, bonjour.
Bonjour madame.
En séjour à Bukavu, quelle est la raison de votre visite?
Nous sommes en mission, une forte délégation de la CENI. Le président Denis Kadima nous a envoyé ici, à l'est du pays, notamment dans les trois provinces qui sont dans la troisième ère opérationnelle, c'est-à-dire le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Puis après, ça sera la grande province orientale pour lancer en fait, l'opération de la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs. Voilà un peu l'objectif principal de notre présence ici, c'est éveiller un peu la conscience de la population pour l'enrôlement qui commence ici dans la troisième ère opérationnelle le 16 février prochain.
Cet enrôlement va prendre combien de temps?
Un mois maximum. Nous pensons que dans un mois, avec les capacités que nous avons avec les machines, il est possible que nous puissions enrôler le maximum possible d'électeurs attendus. Nous appelons donc toute la population sud-kivusienne de s'enrôler massivement pour cet effet.
Sud-Kivu, troisième ère d'enrôlement, grande province ici. Est-ce que vous pouvez parler un peu des différents sites de la province?
Nous avons ici au Sud-Kivu déterminé plus de 800 sites d'inscription. Le Sud-Kivu n'a pas perdu les sites d'avant, mais bien au contraire. Le Sud-Kivu a gagné à peu près 90 sites supplémentaires. Donc j'aimerais rassurer ici la population du Sud-Kivu que cette fois-ci, l'accessibilité a été modifiée dans le sens positif du terme pour faire en sorte que les électeurs soient proches du site des centres d'inscription.
Alors nous sommes ici à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, une province qui a des frontières, hein, on peut qualifier de poreuse avec certains États voisins. Est-ce que des mesures de sécurisation particulières seront prises pour éviter, par exemple, que des étrangers ne viennent s'enrôler également dans les centres?
À ce sujet, j'aimerais dire à toute la population que l'enrôlement des électeurs n'est pas la chasse gardée de la CENI. C'est toute la population congolaise qui doit s'approprier de cette opération-là. Et nous sommes une commission technique chargée d'enrôler les électeurs, mais également d'organiser le vote. Mais par rapport à l'enrôlement des électeurs, cette fois-ci, la CENI va offrir au peuple congolais des cartes d'électeurs qui sont sécurisées. Les trois cycles passés, je ne pense pas que nous ayons des cartes d'électeurs aussi sécurisées que celles-ci. Retenez, dans cette carte d'électeur, il y aura ce qu'on appelle le QR code. Cette QR code aura deux grands éléments. Il y aura ce que nous appelons les éléments alphanumériques, c'est-à-dire les noms, le post-nom, c'est-à-dire l'identité complète, mais également les éléments biométriques, c'est-à-dire la photo. Il y aura l'iris. L'iris n'a jamais existé dans les cartes d'électeurs qui ont précédé, mais également les 10 empreintes digitales. Donc ça donne une sécurité maximale. Et je voudrais vous dire ici que ce QR code ne peut être lu que par la CENI. Cette fois-ci, cette carte donne une sécurité même physique. C'est-à-dire lorsque vous prenez cette carte-là, c'est une carte qui est plastique. Elle n'est pas comme toutes les cartes antérieures qui étaient des du papier A4. Vous la plongez dans l'eau, vous pouvez la frissonner, elle peut résister. Donc, moi, je peux vous garantir pour le moment que, quel que soit ce qui va se passer, mais le reste, j'aimerais dire que dans tous les pays, le mouvement qui se passe entre les pays, c'est très, très, très compliqué pour que je vous dise qu'à 100%, nous pouvons garantir à ce que les étrangers ne pourraient pas venir s'enrôler chez nous, tout comme nous ne pouvons pas garantir pour que les Congolais n'aillent pas s'enrôler de l'autre côté. Donc, mais nous voulons dire ici que l'enrôlement que nous organisons, c'est vraiment un enrôlement pour les Congolais.
Terminons avec cette problématique de Shabunda, un grand territoire du Sud Kivu, mais qui est enclavé aujourd'hui. Récemment, il y a un pont aussi qui sépare la partie nord et la partie sud du territoire qui s'est effondré. Et donc, les habitants sur place craignent, en tout cas, de ne pas pouvoir accéder au centre d'enrôlement. Comment vous pouvez les rassurer?
Nous avons eu plusieurs réunions par rapport au déploiement du matériel et de notre personnel dans les sans-descriptions. Cette question a été minutieusement étudiée au niveau de la CENI et nous vous garantissons ici que nous allons utiliser tous les moyens possibles, les moyens aériens, parce que nous sommes en contact avec la MONUSCO, mais également la moto, nous pouvons même aller à pied. Nous avons calculé les distances et j'ai pu vous rassurer ici que dans la province du Sud Kivu, à partir de Bukavu, tous nos chefs d'antenne nous ont dit qu'au-delà de 10 jours, même si nous allons à moto, nous pouvons atteindre tous les centres d'inscription. Donc, nous avons pris des précautions nécessaires pour que nos proposés à l'enrôlement soient au lieu du travail le moment venu.
Je vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, s'entretenait à Bukavu avec Cynthia Bachizi. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.